Radio Spirale. Le mardi 3 juin 2014, de 16h à 17h30, Michel Vaillé s'entretenait avec Philippe Ducrot, Carole Fréchette, Étienne Lepage et Marcel Pomerleau au quartier général du Festival Transamérique. La question de cette 59e entrée libre de jeu, théâtre et politique de faux amis.
Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Vaïs, je suis content de vous accueillir à cette entrée libre de jeu. Entrée libre, ben, c'est une discussion publique que nous faisons à l'occasion. C'est la 59e en fait ici, depuis le début que j'anime à jeu. Alors je veux remercier mes quatre invités, évidemment, Étienne Lepage qui est à ma gauche, Philippe Duquet, qui est auteur, Philippe Ducrot, et qui est également auteur. En fait, ce sont quatre auteurs. Et Marcel Pomerleau, qui en plus d'être auteur est comédien, peut-être plus comédien, et metteur en scène. Et Carole Fréchette, à droite, qui est également auteur et qui est une ancienne de Jeux. Elle a déjà fait partie pendant plusieurs années de l'équipe de rédaction de la revue Jeux. Alors, cette discussion publique fait l'objet d'un enregistrement. Elle sera placée sur Radio Spirale et elle fera aussi l'objet d'un article dans la revue. Donc, on va discuter entre nous sur le sujet suivant, théâtre et politique de faux amis. Et au bout d'une heure de discussion, ben, vous êtes invités, évidemment, à poser des questions ou faire vos commentaires ou adresser des questions à nos invités. Alors, théâtre et politique de faux amis, point d'interrogation. Nous essayons toujours de trouver un titre et des invités qui peuvent donner lieu à une discussion, voire à un débat. Alors, parfois, des invités se demandent pourquoi on leur demande de venir, alors que, d'après eux, ils ne s'intéressent pas vraiment à la politique en faisant du théâtre, mais justement, nous voulons avoir des points de vue variés, et nous avons vraiment envie d'entendre les quatre personnes qui sont ici s'exprimer sur ce sujet, peut-être débattre, on ne sait pas. Alors, je vous lis brièvement, puisque vous ne devez pas l'avoir sous les yeux, le petit texte que j'avais concocté avec l'équipe de rédaction pour justifier justement cette discussion, ou la lancer. On ne compte plus aujourd'hui les compagnies théâtre qui choisissent de « faire dans le politique », entre guillemets, ou, pour utiliser un mot convenu, « faire du théâtre citoyen ». Au Québec, le politique ne s'incarne plus dans une posture nationaliste ou féministe, mais dans un discours « citoyen », entre guillemets, qui semble être une façon privilégiée de convoquer un théâtre politique de façon moins explicite ou univoque, donc un peu flottante, voire molle, mais d'une dimension protéiforme. Qu'implique donc ce geste? Quels sont ses enjeux esthétiques et sociaux? Cette approche est-elle surtout un moyen efficace d'entrer en communication avec le public, de s'assurer son adhésion à l'objet théâtral? Mais si on ne peut être contre la vertu, est-ce bien le rôle du théâtre de sauver la société? N'est-ce pas instrumentaliser le théâtre que de le restreindre à un propos citoyen et à une telle forme politique? Ce qui ressemble à une mode s'accompagne d'un certain discours critique qui privilégie ce type de théâtre au détriment d'autres formes. Le théâtre politique ou citoyen est-il un passage obligé? Est-ce que cela a des effets néfastes? Et enfin, est-il tabou de se réclamer d'autres formes de discours ou d'en avoir marre de la place accordée aux politiques ou aux citoyens? Dramatiquement, le théâtre et le politique peuvent-ils être amis? Alors voilà, évidemment, il y a des questions là-dedans qui sont parfois provocantes. Alors, bon, il n'y a pas d'ordre vraiment, je n'ai pas nommé un de mes invités pour débuter, mais j'ai apporté le numéro 139 de jeu, joué dans la cité, dans lequel il y avait justement une entrevue avec un de mes invités, Étienne Lepage. Et le titre de cette entrevue qui avait été réalisée par Philippe Couture était « Pour en finir avec le théâtre engagé ». Alors, Étienne Lepage,
j'étais,
est-ce que ça reflète bien ce que vous avez dit à Philippe Couture?
Non, pas du tout.
Il vous a trahi, quoi?
Il m'a trahi.
Bon, d'accord, alors allez-y.
Ben, j'aurais aimé ça que Philippe soit là, parce qu'il est arrivé une petite mésaventure avec ce texte-là.
Ah, d'accord.
Dont Philippe fait partie, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on devait faire une discussion sur la notion d'engagement. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, mais finalement, Philippe n'a jamais été en mesure de tirer la discussion qu'on a faite, qu'il avait enregistrée. On était avec Christian Lapointe, en plus. Et on a perdu l'enregistrement, en fait. Et ce qui était arrivé, on avait discuté très fort, on s'était chicané un peu. Puis à la fin, moi, j'avais écrit un texte par rapport à ce qu'on avait discuté, puis je l'avais envoyé à tout le monde pour dire, regardez, je pense que des fois, c'est pas clair ce que je dis. Ça, c'est ce que je pense. Après, Philippe a dit, est-ce qu'on peut prendre ça pour mettre dans la revue Jeu? Et il a découpé mon texte et il a mis des questions après.
Ah bon, d'accord.
Alors moi, je l'ai chicané. J'ai dit, Philippe, bon. Tu peux pas faire ça. Et Philippe a dit, d'accord, on va essayer de faire un compromis. Et donc voilà, c'est arrivé à ce texte dont je suis... pas très heureux.
D'accord.
Parce que ça ne me fait pas dire qu'est-ce que je pense vraiment.
OK. Alors maintenant, vous avez vraiment l'occasion de dire ce que vous pensez. Et je vous promets qu'on ne fera pas de montage. L'intégrale va être mise sur Radio Spirale. Alors donc, est-ce que vous avez des réponses à certaines de ces questions?
Des réponses, je ne sais pas. Des réflexions, certainement.
Oui.
Par rapport à cette notion de pour en finir avec le théâtre engagé. Ce qui arrive, le premier commentaire que j'aimerais faire, c'est sur cette notion d'engagement. Qu'est-ce qu'on veut dire par engagement? Et la question est un peu, des fois, amenée de façon difficile parce que ça touche tout de suite à l'émotif. Il n'y a personne qui va dire « je ne suis pas engagé ». Puis qu'on peut être engagé dans tellement de manières, engagé dans des recherches, engagé dans un désir de faire du mieux qu'on peut, engagé dans l'envie d'être politique. On peut être engagé de plein de façons, puis souvent utiliser ce mot-là, ça rend très difficile la discussion. Et donc, moi, j'aime mieux penser la question de l'engagement dans le sens de la façon suivante. Qu'est-ce que le théâtre ou l'art dans la société? Et qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça doit faire? Puis c'est là où la notion de politique m'apparaît pertinente, intéressante, parce que je pense que le théâtre est politique. Donc là, ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas une question de goût, ce n'est pas une question de volonté. C'est un objet social, c'est une réalité sociale qui a un impact dans la société. Lequel, on en discutera, mais je pense que ça, on ne peut pas le fuir. Mm-hmm. Et ensuite... Pour terminer, je dirais pas plus que ça pour l'instant, mais je ferai une grande distinction entre la structure théâtrale, donc les modes de fonctionnement, les théâtres, le mode de subvention, les types de publics et les contenus des œuvres. Je pense que les deux sont intéressants, les deux sont pertinents à réfléchir, mais les deux sont radicalement à séparer quand on veut penser le rapport entre théâtre et société. Parce que cette structure dit quelque chose qui peut être complètement en désaccord avec le propos du projet artistique. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, je commence par ça.
D'accord, très bien, merci. Alors, dans cet article, bon, qui vaut ce qu'il vaut, hein, qui avait été publié dans le 139, Étienne Lepage, vous disiez quand même que c'était possible naguère, le théâtre engagé, à l'époque du théâtre des cuisines, mais aujourd'hui, c'est très différent. Alors, on a justement quelqu'un qui a fait partie du théâtre des cuisines, Carole
Fréchette.
Quelqu'un
de naguère.
Naguère, voilà. Alors, Carole, est-ce que tu as des réactions? Est-ce que tu t'es senti provoqué par ce qu'a dit ou ce qu'on a fait dire à Étienne Lepage?
Tu nous as demandé de répondre d'abord à tes questions.
Oui.
En fait, je voulais réagir à la façon dont tu poses la question.
Oui, vas-y.
Donc, toi, tu dis on ne compte plus le nombre de compagnies qui font dans le politique, entre guillemets.
Oui. Attends, je dois juste préciser quand même que ce n'est pas moi tout seul. Ah. C'est l'équipe de rédaction.
D'accord.
Et donc, ce texte est un consensus
d'accord.
de l'équipe de rédaction. Tu sais comment ça marche, ce jeu. Hein?
Oui, oui, bien sûr.
Il n'y a pas de one-man show. Alors, vas-y.
Non, mais enfin... Toi, au nom de l'équipe
oui,
de Madame, jeu.
J'étais d'accord.
Mais alors, c'est ça. Vous dites, on ne compte plus le nombre de compagnies. Alors, c'est la première chose qui m'a intéressée. Je me suis dit, tiens, moi, je vais compter, voir.
Mm-hmm.
Alors, j'ai fait cet exercice qui est complètement subjectif. J'ai recensé toutes les pièces que j'ai vues depuis un an. Je suis partie de mai 2013 jusqu'à mai 2014, mais j'ai inclus les deux FTA, le FTA 2013, le FTA 2014 jusqu'à maintenant. Et j'ai essayé de voir, ça faisait une cinquantaine de spectacles. Mm-hmm. Et j'ai essayé de voir, bon, là-dedans, il y a combien de pièces que je qualifierais de politiques.
Ouais.
Et c'était extrêmement difficile à faire. Je dirais, et donc là, j'arrivais à une dizaine, mais j'ai compté, tu vois, je me disais, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça m'a forcé à me demander, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit théâtre politique? Est-ce qu'on veut dire du théâtre qui parle directement de la chose politique, c'est-à-dire du lien entre l'État et les citoyens, de la gouvernance, du vivre ensemble, etc. Et là, j'en ai mis 10, mais là-dedans, j'ai mis Marie Tudor de Victor Hugo parce qu'elle est reine, tu vois, mais c'est pas du tout une pièce politique. Donc, après, je me suis dit, bon, peut-être que le politique, c'est plus large que ça. On veut dire sociopolitique, au fond, les pièces qui abordent des sujets sociaux. Et donc, là, j'arrivais à, c'est-à-dire des sujets sociaux, qui font des pièces qui posent un regard sur un certain milieu social ou sur... Mais là, après, je me suis demandé, une pièce qui constate l'aliénation de la vie, d'une certaine vie de banlieue, est-ce que c'est politique, ça? Est-ce qu'une pièce qui constate, je ne sais pas, qui part d'une jeune mère qui se sent que la société attend qu'elle se conforme au rôle de mère, est-ce que c'est politique? Au bout du compte, j'avais beaucoup de mal à déterminer qu'est-ce qui était directement politique. Mais disons, les pièces que je trouvais où il y avait des sujets qui étaient directement politiques, il y en avait peut-être 7-8, et là-dessus, il y en avait peut-être une seule qui avait été écrite ici au Québec. Mm-hmm. Sur les 7-8, il y en a plusieurs que j'ai vues au FTA. Et donc, je me disais, est-ce que... Parce que moi aussi, j'ai l'impression que ce mot citoyen est dans l'air et qu'on en parle de plus en plus, mais est-ce que ça... Est-ce que, comme disait Étienne, bon, si on parle du contenu des pièces, est-ce que ça se vérifie? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une tendance? Est-ce que c'est vrai que dans les pièces, on parle de plus en plus de la chose politique directement, disons?
Et puis, tu crois que ce n'est pas le cas?
Ben, écoute, dans mon petit échantillonnage complètement subjectif, que je suis bien consciente que ce n'est pas scientifique du tout, mais je me disais, en fait, dans moi, les pièces que j'ai vues depuis un an, quand même, je suis quelqu'un qui va beaucoup au théâtre, je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça, qui parlait directement de la chose politique.
OK. Mais peut-être là où on peut faire la distinction, encore une fois, c'est entre, par exemple, la pièce comme telle, puis les missions que se donnent les compagnies. Puis si on lit quelle mission se donne les compagnies, là, je serais assez d'accord de dire que je ne vois plus aucune compagnie ne pas dire « Nous sommes citoyens, nous nous engageons.
Voilà. » Mais justement, c'était ça, la conclusion à laquelle j'arrivais, c'était est-ce qu'il y a vraiment dans les spectacles une préoccupation de la chose citoyenne et politique, ou est-ce que c'est une espèce de branding qu'on se donne, parce que c'est ça qu'il faut faire en ce moment, il faut dire qu'on se préoccupe de la chose citoyenne, mais bien sûr... comme moi, je suis d'accord avec Étienne aussi, le théâtre est un geste politique en soi parce que c'est une prise de parole dans la société. Et après, on peut dire, toute parole a une dimension politique. Mais si on parle de théâtre qui parle directement de ça, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup.
Donc, ce que j'en conclue, c'est que pour toi, peut-être, parfois, on le met dans la mission, mais peut-être pour se donner bonne conscience, mais en pratique, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça.
Okay, tu ne veux pas me faire dire ce que j'ai pas dit, pour être un peu polémique, je dirais ça.
D'accord. Alors, Philippe Ducrot, j'ai l'impression qu'il a envie de réagir.
Pas tant que ça.
Ah bon?
Moi, je pense que... moi aussi, j'aurais envie de réagir à votre court texte.
Oui,
je ne sais pas si le théâtre est plus politique de nos jours qu'il l'était. Je ne sais même pas s'il y a plus de missions. Je pense qu'il y en a plus, mais je ne suis pas sûr que toutes les missions se retrouvent à être des missions qui sont déclarées comme étant politiques. Moi, en tant que directeur artistique d'Espace Libre, je reçois beaucoup de dossiers. Et oui, il y a des gens qui se prétendent à une politique, mais il y a beaucoup de gens qui veulent faire du théâtre, qui parlent aux citoyens, qui parlent des vrais enjeux d'aujourd'hui, on veut tous faire ça un peu, là, quelque part. Tu sais, je trouve que... Moi, est-ce bien le rôle du théâtre de sauver la société? Moi, j'ai un peu l'impression que le théâtre n'a pas à avoir de rôle, que le théâtre n'a pas à être placé dans aucune case. Et dès qu'on essaie de le placer... Moi, je fais du théâtre qui a été considéré comme étant très politique. Je comprends très bien pourquoi on m'invite à une table ronde de cette façon-là, parce que j'ai parlé de l'occupation de la Palestine ou du rôle des compagnies minières canadiennes dans dans la guerre du Congo, la guerre la plus meurtrière depuis le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je comprends qu'on s'associe à ça. Mais après ça, Est-ce que politique, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à parler de autre chose que de qualité quand on parle d'art. Je me dis, est-ce que le spectacle est de bonne qualité? Est-ce que ça peut les rejoindre? Est-ce qu'il y a un réel dialogue? Si c'est un manifeste, non. Si, moi, ça ne m'intéresse pas quand ça devient du théâtre de manifeste ou du théâtre de l'agite propre. Après ça, le reste, j'aurais tendance à dire... faisons notre boulot le mieux qu'on peut, c'est ça.
Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Étienne Lepage, que tout théâtre est politique?
Toute prise de parole, j'aurais tendance à croire, est politique. J'aurais même tendance à croire que le politique s'infiltre beaucoup plus loin qu'on le pense. Moi, je crois beaucoup à la phrase « acheter, c'est voter ». Je crois réellement que tout à coup, ça devient politique. Je crois qu'à quelque part, tout notre mode de vie est en soi maintenant relié à la chose politique. Mm-hmm. Voilà.
Merci. Ouais. Marcel, alors vous avez été peut-être le plus surpris qu'on vous a dit.
Oui, très surpris, très étonné qu'on me demande de participer à cette table. Je trouve la question aussi pertinente qu'ambiguë, mais intéressante. L'ambiguïté est une chose intéressante. Moi, je crois que tout geste public est politique. L'aspect de geste citoyen, de théâtre citoyen, de parole citoyenne, pour moi, c'est autre chose. Tout artiste est d'abord un citoyen qui choisit de prendre la parole, d'affirmer quelque chose, un point de vue. Depuis les Grecs, d'ailleurs, le mot politique, si on creuse un peu, le mot politique vient du grec polis, qui veut dire s'inscrit dans la cité. Alors, le théâtre est une parole publique qui s'inscrit au cœur de la cité, et le politique est aussi ce qui s'inscrit dans la cité. Alors, pour moi, c'est intimement et très fortement relié. Contrairement à Carole, je crois que Marie Tudor et Victor Hugo, c'est très politique. De monter Marie Tudor en 2014 dans un théâtre qui s'adresse aux adolescents, c'est politique pour moi. Donc le geste de prendre la parole est en soi politique. À travers les siècles, le 17e a vu Shakespeare, qui est une œuvre totalement politique. Avant ça, les Grecs, 500 ans avant Jésus-Christ, Eschyle et l'Orestie est l'œuvre la plus politique qui soit, le drame familial qui est éminemment politique. Alors, on est dans une société actuelle où la parole est prise de plein de façons. Ça s'élargit. Le terme citoyen est assez récent, la prise de parole citoyenne. Mais je pense que si, je rejoins Philippe Ducrot, que si l'objet artistique, culturel est fort, pertinent, brillant, profond, intelligent, moi ça me ravit à l'ère du néolibéralisme, à l'ère de l'industrie culturelle, à l'ère du rire à tout prix et du divertissement à tout prix, ça me réjouit de voir des paroles dites engagées. Monter sur scène, c'est un acte d'engagement. Écrire pour le théâtre, c'est un acte d'engagement. Alors après ça, on peut parler d'un couple homosexuel sur scène. On est dans l'intimité, on est dans le micro-société, dans la micro-société d'un drame psychologique ou autre, mais c'est très, très politique. Alors, si la qualité est là, si la pertinence, la cohérence sont là, moi, ça me ravit. Mais je ne saurais pas définir plus précisément quand on dit « je fais du théâtre citoyen » ou « cette pièce-là est une pièce de prise de parole ». Les artistes, d'abord, sont des citoyens. Donc, s'ils s'expriment, forcément, c'est une prise de parole citoyenne. Là, elle peut prendre différentes orientations, mais en soi, c'est un geste. La création, l'art, l'affirmation d'une pensée, c'est politique. Moi, ça me ravit.
Étienne?
Moi, c'est là où j'ai envie de dire des choses méchantes pour brasser la soupe. Là où la question m'apparaît pertinente, parce que je pense qu'au-delà des phrases utilisées, on comprend qu'il y a une question en ce moment sur les rapports entre art et société, sur comment faire pour s'engager. Puis moi, par rapport à cette question de parole citoyenne, par rapport à cette question d'engagement de l'artiste qui dit « moi, je fais, c'est fou les efforts que je fais pour être en dehors d'un système capitaliste ou en dehors de ci, en dehors de ça, pour parler de choses qui n'ont rien à voir avec la productivité, etc., etc. » C'est là où je reviendrai à ce que je parlais un peu plus tôt, cette question de la distinction entre le propos dans une pièce, la prise de parole, par exemple, puis la structure. Donc, par exemple, si tu fais un effort d'engagement et que tu prends la parole, mais que tu es dans une pièce vide, Mais soudainement, le fait de l'endroit où tu es est très important, encore plus important que ce que tu dis, à mon avis. Puis c'est là où je trouve, moi, que il y a une sorte de paradoxe entre ce désir incroyable qu'ont les artistes de se responsabiliser. J'ai une théorie qui vaut ce qui vaut sur pourquoi. Pourquoi ils ont cette envie-là de plus en plus? Je serais curieux d'entendre Carole là-dessus parce que Carole, on discutait l'autre fois des essais qui avaient été faits avant, puis de ce moment où soudainement on a arrêté de parler de ça. Là, il y aurait comme un retour de ce désir d'engagement. Je me suis égaré. Mais cette distinction donc avec la structure. Et donc, de mon point de vue, on est dans une structure libérale. On est dans une structure néolibérale de production artistique. Puis ça, on ne peut pas y échapper. Et donc, les artistes, ils veulent énormément la dépasser, mais tout en restant à l'intérieur. C'est-à-dire, comment les subventions sont faites, qui les reçoit, pourquoi, etc. Juste rapidement, comme ça, si on compare la façon dont on finance le théâtre par rapport à comment on le finance en Europe, même si c'est en train de changer en ce moment en Europe, c'est clair que c'est du théâtre privé qu'on fait. Quand les billets au FTA coûtent 40 $, c'est clair qu'on est dans une structure qui fait que certaines personnes peuvent y aller et pas d'autres. Donc, on est dans une structure qui valorise l'utilisateur payeur. Puis, c'est pas la faute à personne. Là, je suis pas en train de dire on est bête de ça. En Europe, on est en train de transformer, évidemment, ça s'en va. Mais oui, en Europe, tu peux aller voir du théâtre pour 3 euros. Tu peux faire valoir que tu es chômeur. Tu peux faire valoir que tu es étudiant. Tu peux faire valoir plein d'affaires pour te retrouver à aller voir des pièces. Il y a eu en Belgique jusqu'à encore récemment un système de subvention. C'est pas de subvention, mais de c'est quoi? C'est pas du bien. Du chômage ou je sais pas trop comment on appelle ça. Un statut artistique, en fait. Un statut artistique qui fait que les artistes, ils ont juste à dire qu'ils sont en train de faire des projets, au moins un minimum d'heures, je ne sais pas quoi, intermittence ou je ne sais pas quoi, puis ils ont de l'argent pour pouvoir continuer de travailler. Puis là, je ne suis pas en train de dire c'est mieux, c'est pas mieux. Je fais juste dire qu'il y a cette structure ici qui est très libérale, qui dit que les meilleurs vont le faire, les moins bons vont disparaître, puis payer, puis c'est ça. Que le public paye son billet. Je veux dire, un aspect très intéressant, j'avais envie de soulever ça, parce qu'il y a ce spectacle qui s'appelle le No Show, qui était dans le festival ici.
Qui est toujours,
qui traitait de ça. Y a-t-il des gens du No Show? Non, hein? Bon.
Il joue ce soir.
Je ne veux pas parler de la qualité du spectacle. Je veux vraiment juste parler du propos dans la pièce. Puis c'est sur la pièce, si vous ne l'avez pas vu, il y a des bouts qui disparaissent parce qu'on vote pour des interprètes, puis il y a des interprètes qui ne sont pas là. Fait qu'il y a des bouts de spectacle auxquels on n'a pas accès. Par contre, il y a quand même, à travers le spectacle, une idée qui se dégage que paye ton billet, que la valeur de ce que tu vois, tu dois la payer. Et donc, ils font valoir au début combien tout le monde peut choisir de payer. Et ils font, par exemple, sentir coupable énormément les gens qui ont décidé de payer zéro. Je ne dis pas que c'est nécessairement leur point de vue à eux. Il faudrait discuter avec eux pour savoir c'est quoi leur point de vue à eux. Mais du spectacle, de mon point de vue, se dégageait cette forte odeur de libéralisme qui dit « mais paye-les ton spectacle parce qu'il vaut ça ». Alors que, en arrière, il y a plein d'autres réalités, comme les subventions. Ça, ils n'en parlent pas dans le spectacle, cette logique de subvention. Mais pas dans la version que moi j'ai vue, ils en parlent très peu. Ils font sentir que la responsabilité du coût, c'est le spectateur qui doit la prendre. Et au-delà de ça, cette idée que quelqu'un qui ne paierait pas son billet, ça serait grave. Alors que si on a envie, par exemple, de d'autres valeurs, on peut aimer les valeurs libérales. Moi, je ne les aime pas. On peut les aimer, mais moi, je ne les aime pas. Et je pense que si on doit payer 40 $ pour se sentir honnête par rapport au spectacle, mais qui est dans ta salle? Où sont les mères monoparentales? Où sont les gens qu'on aimerait donc qui viennent dans notre théâtre parce qu'on trouve qu'ils ne sont pas là, les gens qui accordent pas cette part de budget énorme à l'idée d'aller voir de la culture pour se transcender? C'est un super beau geste, mais c'est aussi une structure qui a des effets sur qu'est-ce qu'on dit, sur comment on le dit, puis sur à qui on peut le dire, puis l'impact que ça va avoir.
En ce sens-là, Michel, si vous permettez, on peut dire aussi qu'actuellement, il me semble que, puisqu'on a nommé le mot culture, puisqu'Étienne lance le mot culture, le regard qu'on a sur la culture est aussi un regard éminemment politique, puisque est-ce qu'on définit la culture par le rendement productif, par le succès au box-office? Est-ce qu'on définit comme société la culture comme un territoire de pensée, de réflexion? Alors, on est en ce moment dans un mouvement très, très, très fort qui qualifie la production culturelle, théâtrale et autres, selon est-ce que ce sera un succès, est-ce que le grand public, ça va être un méga succès, alors qu'une œuvre jouée devant quelques spectateurs quelques soirs peut avoir une répercussion à long terme qui va influencer la pensée du collectif. Et c'est là que c'est très politique aussi, le système dans lequel on est, pour parler de notre pays. Au Canada et au Québec, le système érigé est un système qui glorifie la promesse de succès et qui, de plus en plus, coupe dans les objets artistiques, culturels, qui semblent ne pas répondre à des critères purement économiques. Et ça, c'est des choix politiques. C'est ce qui ralentit, par exemple, la possibilité à des spectacles de voyager à travers le Québec et à l'étranger. Mm-hmm. C'est plus difficile d'aller jouer à Shawinigan que d'aller jouer en Europe. J'ai fait beaucoup de tournées en Europe, et parfois j'ai entendu des metteurs en scène, des auteurs, des chorégraphes dire j'ai tellement le goût de jouer en région, dans toutes les régions du Québec, mais c'est impossible. Des gens qui ont des carrières internationales et qui se voient dans l'impossibilité parce que le travail est plus subversif et plus a une réflexion qui n'est pas nécessairement purement divertissante. Mais en danse, par exemple, c'est très difficile de faire circuler la danse au Québec. C'est assez, c'est triste et aberrant. Alors, c'est le cas d'un objet culturel, théâtral ou autre, qui porte une réflexion, une pensée, qui est engagée dans un autre mouvement que celui de faire sonner la caisse.
Carole, tu avais quelque chose à dire?
Oui, moi, je voulais réagir un peu à ce que Étienne dit sur la question du public. C'est vrai que c'est une réflexion que je me faisais là, en venant ici. Comment toute cette question, c'est vrai qu'on sent depuis quelques années une préoccupation d'inscrire le théâtre dans la cité, de rejoindre les citoyens, que le théâtre joue un rôle dans la cité, disons. Mais je trouve pas qu'il y a beaucoup de préoccupations du public, c'est-à-dire qui vient voir nos pièces. Et est-ce qu'on essaie de... Je pense que tout le monde veut plus de public, là. Ça, c'est pas la question. Je sais bien que les compagnies se fendent en quatre pour faire la pub ou pour tout ça, mais je sens pas beaucoup la... Je trouve qu'il y a comme un paradoxe, c'est-à-dire on veut beaucoup... On veut faire un théâtre qui s'adresse à tous et qui parle... On veut s'intéresser aux questions de la cité, mais on le fait dans un cadre qui est très restreint, devant un petit public. Il n'y a pas beaucoup de préoccupations, je trouve, d'élargir ce public, d'aller chercher un public d'autres classes sociales, par exemple. Je dis ça parce que moi, je viens d'une époque où c'est vrai que c'était une préoccupation fondamentale pour nous. C'est-à-dire, nous, on se disait, on fait du théâtre pour les gens ne viennent pas au théâtre, donc on va aller les voir, on va aller faire du théâtre, on va aller leur porter le théâtre. On avait des objectifs que je n'ai plus maintenant, c'est-à-dire qu'on allait leur porter la bonne parole, ce que je ne veux plus faire du tout, mais on avait cette préoccupation d'aller vers le public, et ça je ne sais pas comment dire, ça coûtait quelque chose de faire ça. C'est-à-dire, ça coûtait... pendant que tu fais ça, pendant que tu vas jouer dans des groupes populaires, puis que tu fais le tour du Québec dans les salles paroissiales pour aller jouer, maman ne travaille pas à trop d'ouvrages, tu ne te construis pas une carrière. Mm-hmm. Et tu ne te construis pas une carrière, tu n'as pas nécessairement la reconnaissance de tes pairs. Pour moi, c'était quelque chose de complètement parallèle. Et un jour, cette aventure s'est terminée et pour moi, j'ai décidé que j'avais envie de prendre la parole autrement, d'avoir une approche plus intuitive, une démarche artistique plus intuitive et donc de me glisser dans le système qui existait. Mais pendant ces années-là, on se disait que c'était incompatible. Mmh. On ne pouvait pas à la fois se construire une carrière et aller rejoindre ce public. Mmh. Mais là, Mais puis je pense qu'il y a une dichotomie là qui est difficile à résoudre, mais ce que je sens en ce moment, c'est que je l'entends pas, moi, cette préoccupation de rejoindre un public autre. Jamais, il me semble qu'on ne parle jamais de ça entre nous, et que je trouve au contraire que cette idée de rejoindre beaucoup de monde ou de faire un théâtre populaire, ce n'est pas quelque chose qui est valorisé entre nous. C'est-à-dire, ce qui est valorisé entre nous, c'est d'être reconnu à un certain niveau. Tu vois, il y a des instances dans notre milieu qui nous apportent la reconnaissance. Et c'est ces instances-là, je trouve, en ce moment, qui ont le plus de poids. Mais cette idée d'y aller dans la cité, d'aller vers les gens, d'apporter le théâtre aux gens, ce n'est plus présent. Je dis pas, moi, je le fais pas moi-même, là, mais je constate ça.
Alors, c'est tout à fait à l'antipode de ce que Étienne décrivait quand il parlait d'un théâtre libéral dans lequel nous baignons en ce moment. Il parlait du prix des billets, il disait que, bon, on est dans ce genre de système. Et j'ai l'impression que vous avez réagi un petit peu lorsqu'il a dit ça, Philippe Ducroix. Alors, comment vous vous situez par rapport à cette idée d'aller vers le public ou alors de se trouver dans un système qu'il est difficile de changer?
Ben, mes réactions face à ce que disait Étienne sont très anecdotiques. Je ne suis pas sûr que ça vaut vraiment le coup d'approfondir ce que juste une petite affaire par rapport au no-show. Moi, je trouvais, il y a une phrase qui est très pertinente, je trouve, dans le no-show. Il disait, les subventions vont à... Ce qui est subventionné, ce qu'il essayait de démontrer dans le no-show, c'est que ce qui est subventionné, c'est le spectateur. C'est que, donc, le prix du billet ne rendra jamais justice au coût d'une représentation. Et c'est même texte audit dans le spectacle. Donc, c'était juste ça. Moi, je trouve que ce que tu dis qui est fort intéressant, c'est qu'est-ce qui est politique de nos jours? Il y a le comment aussi. Tu dis, il faut aller chercher des nouveaux publics et tout ça, puis on se pose très peu la question. Moi, je fais beaucoup de demandes de subventions dans ma vie. J'en fais vraiment beaucoup. Et dans les demandes de fonctionnement, de subventions au fonctionnement, il y a des énormes passages maintenant où ils nous obligent à être détaillés. Comment on fait pour aller chercher du nouveau public? Comment on fait pour aller chercher les gens de l'immigration? Comment on fait pour aller chercher... Puis on est obligé à quelque part, quelles sont nos activités de médiation culturelle? Quelles sont les tables rondes qu'on organise à l'extérieur? Quels sont tout le périphérique qui est autour du spectacle et ils sans jamais parler. C'est rendu que des fois, je cherche où, dans la demande de subvention, élaborer mon projet artistique. Puis c'est sérieux, là, c'est réellement rendu assez grave. Je me suis retrouvé à appeler les gens. Donc ça me questionne. Moi, ça me ramène beaucoup au néolibéralisme dont parle Étienne, qui est de dire le mode de fonctionnement, que ce soit la rentabilité avec toutes les questions de subvention, puis les Nathalie Elgrabi-Lévy qui dit si tu n'es pas un artiste qui réussit à vendre ton œuvre et à en vivre, ben, tu n'es pas un artiste qui est assez compétent et donc tu te dois d'être écarté de la course. Moi, c'est plus ce discours-là. Et tout à coup, ce qui est politique dans notre acte théâtral devient aussi la manière qu'on fait les prises de parole. Je me rappelle j'ai travaillé avec Jérémy Niel qui a présenté Phèdre ici. Et il y avait un spectacle qui s'appelait « Soudain son visage exprimant de l'intérêt ». Et ce spectacle-là, il m'avait commandé, moi, d'écrire une didascalie en réponse à la didascalie d'une pièce de Kreutz, de Franz Xaver Kreutz. Donc, le spectacle n'avait aucune parole sur scène, mais ce n'était pas du théâtre physique, c'était vraiment juste de l'ambiance. Et tout à coup, je trouvais son spectacle absolument antiproductiviste. Ce spectacle-là, on arrivait, il se passait pas grand-chose. Et peu à peu, la loupe s'approfondissait et on rentrait dans le détail de chacune des micro-actions. Et là, je trouvais ce spectacle-là éminemment politique parce que, justement, il refusait les normes de la productivité de nos théâtres. Moi, en tant que metteur en scène, je me surprends énormément à répondre aux normes de la productivité, à me dire, là, il faut que ça punche, là, ça, c'est trop lent, là, il y a une longueur, là, le public va décrocher. Et tout ça, quelque part... Je trouve que le politique rentre dans mes modes de création beaucoup plus que dans ce dont je parle dans mes modes de création. Parce que j'aurais tendance à croire que tout le monde veut dire quelque chose quand ils prennent la parole et que donc tout le monde peut se réclamer du théâtre politique.
Mais il y a une chose importante. Qui vient d'être relevée, c'est-à-dire que avant même la création d'un spectacle, puisque l'art est subventionné, le théâtre est comme tous les autres arts, il faut effectivement, depuis peut-être une dizaine d'années, formuler les choses de telle sorte qu'on doit prouver, par les 1000 questions qui sont posées, le succès potentiel de notre objet, qui est à créer, qui est à, en total développement. Donc, les fameuses demandes de subvention, tu n'es pas le seul à en faire, on en fait tous et toutes les compagnies doivent en faire. Mais comment c'est formulé? Effectivement, il faut faire la preuve qu'on a tout là pour non seulement rejoindre un plus large public, mais qu'il y ait un succès, commercialement, que ce sera un succès. Alors qu'au départ, la création se fait dans un tâtonnement, se fait dans une hésitation, dans une réflexion qui est en train de se former. Alors c'est sûr que les dés au départ sont drôlement joués et on est pris avec ça, on est dans ce système-là. Il faut peut-être...
Si je peux dire quelque chose, je mettrais un bémol là-dessus parce que on a l'air d'être en train de dire que... C'est parce qu'on est dans un système néolibéral qu'il faut séduire un public, mais ça fait partie de notre métier de séduire un public. C'est-à-dire, on peut pas. C'est pas parce que ça nous est imposé de l'extérieur. C'est-à-dire, toi, tu dis, il faut que je punch, là, c'est trop long, ça. Oui, je comprends. C'est-à-dire, c'est certain qu'il y a des. On est influencé par une certaine efficacité qu'on retrouve à la télé, qu'on retrouve partout. Mais ce rapport entre soi et le public, c'est-à-dire il y a quand même quelque chose de base dans notre métier qui est je vais présenter ce spectacle à des gens et il faut qu'il y ait assez de gens qui les aiment pour que je puisse continuer à faire ça. S'il n'y a pas ça, c'est pas juste à cause des subventions, c'est, ça fait partie, ça changera jamais, ça n'a rien à voir avec le néolibéralisme.
Non, c'est vrai qu'une œuvre peut avoir une grande pertinence et rejoindre un très petit public.
Oui.
Et peut-être que dans 10 ans, on en reparlera et peut-être Jean-Pierre Ronfard a fait des spectacles, il y avait 3 personnes dans la salle pendant 3 semaines de temps et ce sont des spectacles qui ont marqué quelque chose.
Mais il faut quand même être séduisant. Il faut quand même être séduisant. Même si c'est pour...
Qu'est-ce que ça veut dire être séduisant?
Ben, ça veut juste dire être capable d'entrer en contact puis de toucher des gens. Ça peut être 3 personnes, mais il faut y arriver.
Ouais. C'est-à-dire qu'il faut y arriver avec ses convictions et sa foi. Il ne faut pas répondre à ce qu'on exige. Ouais.
Ben, là-dessus, moi, je ne serais pas d'accord.
Il faut faire acte de résistance.
Je pense qu'il faut être en dialogue aussi avec les gens qui viennent nous écouter, puis pas juste produire de façon autiste ce qui nous passe par la tête, mais l'idée, ce n'est pas de dire que tu es vendu à partir du moment où tu t'intéresses à ce que ton public a envie. C'est de dire qu'il y a un dialogue là à mettre en place, puis que notre job, je pense, comme artiste, se situe beaucoup dans la séduction. La séduction, c'est pas petit, c'est pas minable, c'est pas pauvre, c'est grand, c'est complexe, c'est riche, c'est infini, c'est beau. Et donc, ça, c'est notre job, je pense aussi.
Si, mais pour revenir aussi un peu à la thématique de base du théâtre politique, moi, si on dit que le théâtre est une prise de communication, est un acte de communication, moi, définitivement, les projets que je fais en tant qu'artiste, moi, je suis très d'accord avec toi. Je pense que c'est ailleurs que le néolibéralisme s'insère directement. Mais moi, je fais un acte de communication, moi, j'ai le goût d'être entendu. Donc, j'ai vraiment envie qu'ils se soient entendus. Effectivement, certains sujets sont assez pointus. Et donc, ce n'est pas tous les spectacles qui doivent être entendus par 800 000 personnes. Puis le théâtre reste un art qui n'est pas un théâtre de masse.
Il n'y a pas de recette non plus. C'est-à-dire que le succès à recette n'existe pas. Alors, on ne sait jamais. Oui, on souhaite tous les artistes qui prennent la parole souhaitent être entendus. C'est un cri, c'est un acte de résistance, c'est une affirmation de notre vision du monde. On souhaite tous ça. Mais au départ, si on se dit « je vais tout faire pour plaire et séduire », je trouve ça très dangereux.
Mais c'est pas ça, Marcel, tu comprends que c'est pas ça que je dis.
Non, c'est pas ça que je dis.
Mais je dis que la séduction... Enfin, que, je ne sais pas comment l'appeler.
C'est moi qui ai mis public, on n'est pas obligé de prendre ce mot-là.
Si on va vers le public, il faut qu'il y ait une réponse du public un jour. S'il n'y a pas de réponse, tu ne fais plus ça.
Oui, ça, c'est sûr.
Donc tu es en dialogue avec ce public. Et donc, mais peut-être que ce que tu fais, mettons l'exemple que tu donnais de cette pièce de Jérémy Niel qui était très lente et tout ça, tu sais d'avance que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens parce que les gens sont... En général, avide de mouvements et de rebondissements et tout. Tu peux décider ça, mais il faut quand même qu'il y ait une partie du public qui te suive là-dedans. Sinon, ça va pas.
Il faut qu'il y ait un écho. Ouais.
J'aimerais peut-être faire un petit bout sur quelque chose que Philippe a dit, parce que je trouvais ça intéressant, sur la façon dont, à travers sa demande de subvention, on lui demande soudainement de faire du développement de public. Je trouve que ça, c'est très symptomatique d'une sorte de désengagement politique du rapport entre l'art et les publics, ou l'art et la société, en fait. C'est intéressant parce que quand les artistes ont envie d'être engagés de plus en plus, grosso modo, le sens de la question qu'il y a ici, sont pas fous. C'est parce qu'il y a vraiment une problématique à ce niveau-là. Il y a vraiment un sentiment partagé par des artistes qui sont en général des gens à l'affût, intelligents, éduqués, qui se posent la question, puis qui sont comme, mon Dieu, c'est pas fou. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus d'avoir cette responsabilité, moi j'appelle de séduction, mais peut-être que le mot n'est pas bon, cette responsabilité de travailler au quotidien pour être excellent, pour toucher, parler, travailler dans l'esthétique, être entendu, être dans l'esthétique, être dans la prise de parole. En même temps, les artistes maintenant ont l'urgence de se responsabiliser. D'un point de vue de justice sociale, d'un point de vue de qu'est-ce que c'est le théâtre dans la société, ça devrait être vu par tout le monde, il devrait avoir des billets pas chers. Hein? Fait que soudainement, c'est les artistes qui se mettent à prendre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a clairement un désengagement de la part des pouvoirs publics. Après ça, c'est toute la société, en fait, parce qu'il faudrait, ça devrait être des enjeux dans les élections, ça devrait être des enjeux qui n'ont pas, par exemple, en 2012, quand il y a eu le mouvement étudiant, c'est pas des questions qui sont sorties beaucoup dans la bouche des artistes, alors que c'était un moment où ça aurait pu être présent. Mais je trouve que c'est symptomatique parce que si on se demande, enfin, j'avais soulevé la question plus tard, je me rattrape ma propre balle lancée de qu'est-ce que le théâtre peut faire, qu'est-ce que c'est l'art dans la société, bien, moi, j'irais plus du côté, je fais une grosse division, là, mais j'irais plus du côté du travail esthétique, de la transcendance, que du travail de justice sociale. Mais là, soudainement, parce qu'il y a un problème de justice sociale, évident, on le voit partout, c'est pas pour rien que tout le monde est sorti dans la rue en 2012, les artistes qui sont des gens plein de bonne volonté, puis qui veulent, bien, ils aimeraient ça faire deux pierres d'un coup, arriver à faire que leur travail soit en même temps de la transcendance, en même temps de la communication, en même temps, et en même temps que ça sauve les gens, que ça aide le monde, que ça fasse...
Oui, Philippe Ducrot semblait regretter que dans les demandes de subvention, on ne semble pas s'intéresser au travail esthétique.
Mais hein? Tout ce que je veux mentionner, c'est qu'en faisant ça, il se décharge sur lui de faire la job, alors que lui a une job esthétique à faire.
Oui, mais est-ce que vous regrettez ça, que les organismes subventionnaires ne s'intéressent pas vraiment à ce qui est au cœur de votre travail pour vous?
À vrai dire, je pense que ces gens-là prétendraient qu'ils s'y intéressent encore. La seule chose, c'est que la manière que les formulaires... Moi, je trouve que c'est très éloquent. Quand on parle, je retirais cet exemple-là pour deux choses. Premièrement, pour parler du néolibéralisme, pour dire à quel point ce néolibéralisme-là est en train de changer les structures. Je ramenais au comment. Changer les structures avec lesquelles on travaille et que malheureusement, quand ces structures-là sont changées, j'ai l'impression que peu à peu, je crains que peu à peu, tranquillement, ça change la nature de notre travail. Ça, c'est vraiment une chose que je voulais soulever. Puis aussi, je voulais juste un peu éviter le débat d'impression. J'ai l'impression qu'on ne va pas chercher assez de développer le public. J'ai l'impression, parce qu'à quelque part, on pourrait tous passer une heure et demie en ce moment à juste dire « j'ai l'impression de ci, j'ai l'impression de ça ». Puis moi, je veux juste dire... Sérieusement, dans les demandes de subvention, il y a vraiment une... Pour avoir fait des demandes de subvention au fonctionnement depuis 10 ans, j'ai vraiment vu l'ampleur,
une différence
et toutes ces questions-là qui prennent beaucoup plus de place. C'est tout ce que je voulais dire.
Ouais.
Voilà.
Mais en même temps, je pense que c'est peut-être ce qui fait que l'aventure du théâtre des cuisines, par exemple, a pris fin. C'est parce qu'il y a encore une autre distinction à faire. Leur action était vraiment orientée vers la justice sociale. Mm-hmm. Donc, ils prenaient le temps d'aller dans des endroits pour rejoindre des gens. Ça ne veut pas dire que ça marchait. Mm-hmm. Ou ça ne veut pas dire non plus qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, vous avez arrêté. Je veux dire, c'est épuisant. Mm-hmm. Tu n'as pas l'impression de changer grand-chose. Et donc, à un moment donné, ça se transforme. Et c'est là où...
C'est une action sociale comme une autre. Les gens qui travaillent dans les groupes populaires, ils font la même chose. Nous,
exact.
On faisait du théâtre. Il y en a qui font, je ne sais pas, de l'éducation populaire, etc. C'est une action, c'est sûr que c'est une action humble. Tu ne vois pas les résultats, tu ne les verras jamais, les résultats.
Mais en même temps, à l'époque du théâtre des cuisines, donc dans les années 70, il y avait donc des groupes comme le tien, comme celui auquel tu fais allusion, Carole. Mais en même temps, il y avait aussi des gens qui faisaient vraiment de l'art pour l'art. Mm-hmm. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, ça, aujourd'hui? Des gens qui font de l'art pour l'art et qui disent « la politique, ça ne nous intéresse pas ».
Ben, ils en font pareil, ils ne savent juste pas.
Ils font parler de la politique, tu dis?
Mm-hmm. Bien sûr.
C'est-à-dire que si une démarche, à mon sens, si une démarche est... si un créateur va tout au bout de sa démarche et essaie de faire le moins de compromis, l'art pour l'art, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aller très, très loin dans une vision qu'on a. Donc oui, c'est politique. C'est un choix qui s'inscrit dans soit en résistance, soit en contestation, mais c'est politique.
Mais, Michel, je sais pas. Si j'essaie de répondre pour moi-même, quand tu dis est-ce que ça existe des créateurs qui font de l'art pour l'art, moi je dirais pas que je fais de l'art pour l'art, mais je me dis pas non plus quand j'écris une pièce que je pose un geste politique ou que je le fais pour des raisons politiques. Je mets sur la place publique mon rapport au monde, les questions que je me pose sur le monde. Je sais, c'est politique, on l'a dit, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a... N'importe qui, alors quelqu'un qui fait un truc abstrait aussi, son geste est politique. Mais si tu te demandes est-ce qu'on le fait de façon consciemment pour vouloir s'inscrire dans le débat politique? Non. Mais c'est une... Oui, bien sûr, c'est une prise de parole publique. Et donc...
Mais beaucoup de choses nous échappent en création, c'est-à-dire qu'on part avec une idée, un projet, un objet qu'on veut mener le plus loin possible, et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il faut répondre à bien des questions au même moment qu'on crée un objet qui demeure assez mystérieux jusqu'à son ultime création. Alors effectivement, je ne pense pas qu'au début on se dit, certains peut-être le font, mais au début je crois qu'on ne peut pas définir ce pourquoi on prend la parole. La parole est prise par urgence et ça sort, ça surgit.
Mais aussi je ramènerais la distinction entre qu'est-ce que tu essaies de dire, puis qu'est-ce que la structure dans laquelle tu es fait dire à ce que tu fais. Comme par exemple, on va dire un blockbuster américain, ça veut juste être divertissant. Mais ça peut être brutal. Qu'est-ce que ça crée politiquement dans l'espace en envoyant des valeurs de sexisme, de racisme, de capitalisme? C'est super grave. Pourtant, leur volonté à eux, c'est de vendre.
Ouais.
Et c'est la même chose pour nous. Nous, on peut avoir une volonté de changer le monde, puis en même temps, t'as juste présenté ton truc à des gens déjà convaincus. Donc, il y a cette distinction-là pour moi qui est vraiment fondamentale, puis qui fait que dans le contexte dans lequel on est, dans la façon dont la structure est faite, c'est très difficile. En fait, on pourrait être très en désaccord avec moi, mais j'ai l'impression que ça a très peu d'importance de quoi tu parles au final, en tant qu'artiste. Très peu d'importance de quoi tu parles et les motivations pourquoi tu le fais. C'est tes motivations à toi, donc c'est important. Là. C'est important pour toi, c'est important pour ton milieu. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la distinction entre ce que Philippe pense et ce que moi je pense, par exemple, dans la façon dont on pense notre travail, puis dans la façon dont on le fait, je pense a très peu d'impact au final sur l'effet politique de notre travail. On est grosso modo dans le même milieu qui présente grosso modo aux mêmes personnes les mêmes genres d'expériences. Après ça, moi je pourrais faire une pièce que je qualifierais d'art pour art, ou est-ce que ça serait juste de l'esthétisme gratuit? Je pense que ça ferait pas une énorme différence.
Une énorme différence sur quoi?
Une énorme différence sur le sens social qu'a l'art et le théâtre en particulier. On est dans un régime, par exemple, c'est pas moi qui invente ça, on peut ne pas aimer cette sociologue-là, mais elle s'appelle Nathalie Heinicke, puis elle dit entre autres qu'on est dans un régime artistique de la distinction. Ça, c'est bien plus fort que qu'est-ce qu'on va faire dedans. Le régime artistique de la distinction, c'est plein d'artistes qui essaient le plus possible d'être différents, mais en même temps, pas trop, parce que si tu reconnais pas qu'ils sont des artistes, ils sont autres. Fait qu'on est dans cette espèce de logique où est-ce qu'on essaie sans arrêt de repousser la limite de qu'est-ce qui est de l'art, mais il faut pas trop chirer, parce que sinon, on sera plus reconnu comme tel. Puis ça, c'est notre activité. C'est pas stupide, je suis pas en train de dire que c'est laid, là, faire ça. C'est grandiose, il se passe plein d'affaires là-dedans. Mais c'est très différent de d'autres régimes artistiques. Le régime artistique moyen-âgeux, par exemple, ça va vraiment être autre chose comme rapport à l'art, comme rapport aux œuvres, aux artistes.
Oui,
c'est
d'accord.
Complètement un autre.
Mais disons,
logique.
Sur la planète Terre en ce moment, là,
il y a encore beaucoup d'art religieux, mais on pourrait faire de l'art engagé, de l'art thérapeutique. Il y a plein d'autres façons de faire. Il y a même l'art traditionnel. On rejette ça du bord de la main comme si ça valait rien. Non, non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Je parle pas de goût. Je parle, mettons, si tu regardes les subventions, où est-ce qu'elles vont?
Absolument.
Les subventions, ils vont à l'art de recherche-création. Quand on parle de cachet artistique, là, art, cachet, recherche, création pour les artistes qui sont dans un régime de distinction. Si toi, tu fais de la musique ancienne, ça va être très difficile, encore plus difficile que nous, c'est déjà difficile.
Ouais.
Donc, c'est juste des nuances pour dire que cette structure-là dans laquelle on est, elle est vraiment importante et elle nous oblige à être dans des choses, même si ce n'est pas notre volonté. Et je pense que les artistes, moi en premier, on finit par se sentir frustrés de l'incapacité à agir au niveau de la justice sociale. Et on essaye, on prie, je ne sais pas trop quoi, pour que ça fasse les deux, mais je pense qu'on est dans un régime qui nous tire par la main. On a Hydro-Québec sur nos CA, puis ça compte, ça.
Absolument. Moi, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui.
Est-ce que je vous comprends bien? C'est le résultat qui va faire que telle ou telle pièce ou telle démarche artistique va être perçue comme politique, beaucoup plus que l'intention de départ.
Ben oui, bien sûr.
C'est ça. Mais j'ai l'impression aussi...
Aux yeux de qui?
Ben, le résultat aux yeux du public et aux yeux des réactions qu'il y a dans la société, de la critique, enfin du jugement des autres.
L'institution théâtrale, déjà, en partant. L'institution théâtrale, c'est les critiques, c'est les revues, c'est... Après ça, c'est les gens qui vont au théâtre. C'est pas nécessairement un énorme milieu, là, mais c'est un milieu.
Parce que je vous ai écouté tous parler de théâtre politique et de théâtre citoyen d'une façon tellement large. Vous avez tellement élargi le concept, y compris en disant que tout... Même l'art pour l'art, c'est aussi politique. Je me suis dit, bon, à ce moment-là, si tout est politique, finalement, c'est le résultat qui va faire, c'est l'impact, c'est l'écho social qui va faire que telle ou telle démarche va être qualifiée de politique ou non. Hein? Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on noie un petit peu le poisson en disant ça. Autrement dit, l'art pour l'art, à la façon dont le pratiquait l'Escabelle, par exemple, à la même époque, le théâtre des cuisines, dans les années 70, ça n'existe plus. Ça n'a plus de... Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore?
Mais oui, je pense.
Des démarches qui mettent par-dessus tout l'art. Des démarches
esthétiques, bien sûr. Voilà.
Oui.
Mais ça reste politique.
Par exemple, je veux des exemples, moi, parce que je veux aller les voir, ceux-là.
Mais j'aurais tendance à croire que Jérémy Niel ne me dirait pas en ce moment qu'il défend un projet artistique, politique, de la même manière que moi, quand je dis, ben là, je veux faire une pièce qui va parler de l'occupation de la Palestine, tout à coup, évidemment, les gens vont dire, ben Philippe, il va faire un théâtre qu'on nomme politique. Après ça, pourquoi nommer les choses? Ça, c'est vraiment toute une autre question. Moi, qui est la question qui m'intéresse le plus, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là. Pourquoi, en quoi ça sert de nommer qu'il y a du théâtre qui soit politique ou du théâtre qui ne le soit pas? Ça, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là, mais j'aurais tendance à croire qu'il y a beaucoup de gens qui font... Nous, à Espace Libre, il y a le groupe de poésie moderne qui s'en vient faire, qui fait des projets, et j'ai pas l'impression que ces gens-là, c'est vraiment des gens qui ont une démarche très, très, très basée sur la recherche du mot pour le mot, sur le son, sur la musicalité des mots. Omnibus, qui est une compagnie résidente d'Espace Libre, fait un travail axé sur le développement du corps. On fait des petits, dont une compagnie qui s'appelle Tonon Mortaise, qui fait aussi un travail qui est axé sur le corps. La pire espèce qui fait du travail d'objet, est-ce que c'est du travail politique, la pire espèce? Je ne penserais pas qu'eux prétendraient que oui, ils font du théâtre politique de la même manière que le théâtre du grand jour en font. Et après ça, je trouve que dire du théâtre engagé et pas du théâtre, on est tous engagés, on est très engagés, un danseur qui fait son spectacle est engagé, je trouve que c'est jouer sur les mots. Du théâtre engagé, on sait à peu près tous qu'est-ce qu'on veut dire par ça. C'est du théâtre qui se veut social, qui se veut aborder d'une manière pseudo-frontale la question politique. Et après ça, de dire que Michel Pilon, puis que le mieux Pilon, que Victor Pilon, oui, font du théâtre politique ou du théâtre engagé, j'aurais tendance à dire... Mais ça dépend. Vous avez été engagé pour faire ce spectacle-là. Je veux bien. Mais après ça, si on ne jouait pas avec les mots, on se dirait, ben non, vous ne faites pas nécessairement du théâtre engagé. Et ce n'est pas grave. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Ça me ramène à me dire, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça touche? Est-ce qu'il y a une qualité? Est-ce qu'il y a une résonance? Est-ce qu'il y a un écho, comme vous disiez?
Oui.
Très bien, merci. Alors donc, c'est bien, parce que vous venez enfin de nommer trois ou quatre
on peut en nommer d'autres
artistes
aussi.
Qui font ce qu'on peut appeler du théâtre non engagé. Alors, Victor Pilon, Michel Lemieux, La Pire Espèce, Omnibus, Jérémy Niel. Bon, ben c'est bien, donc c'est peut-être des gens qu'on aurait
Moi, je ne fais pas du truc engagé frontalement.
Ah bon, ok. Alors, justement, il y a quelqu'un qui voudrait réagir dans la salle en posant une question ou en faisant un commentaire. Il se trouve que c'est Christian Saint-Pierre, le rédacteur.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Oui, on t'entend très bien.
Alors, je vais justement ajouter la voix de quelqu'un d'autre qui prétend, en tout cas, ou qui, selon moi, ne fait pas du théâtre politique, au sens où on aurait aimé l'entendre d'une façon plus précise. Donc, je me permets de citer Évelyne de la Chenelière dans un article qu'elle a écrit pour la revue Liberté. « On me reproche de ne pas prendre mes responsabilités, de faillir à ma tâche. Un artiste s'engage. Un artiste éclaire ses concitoyens. Pour ma part, je ne peux que m'engager à écrire mon incapacité à y voir clair. » Dans le milieu artistique montréalais, on ne parle plus que d'engagement, de résistance, d'œuvres politiques et de jeunesse qui grondent. Depuis quelques saisons déjà, je n'ai jamais lu autant d'unanimité dans les mots de présentation rédigés par les directeurs artistiques de nos théâtres. Hors du politique, point de salut. D'ailleurs, comment oser parler d'autre chose? Devant ce joug de l'art engagé, je rêve d'écrire une œuvre dégagée. Parce que l'art engagé, politisé et peut-être au fond, l'art le moins politique qui soit. Il devient instrument passionné par la notion d'artiste citoyen. J'ai envie d'écrire un poème barbare, amoral, désaffecté. C'est précisément là où le citoyen trouve sa limite que commence le travail de l'artiste. Veut-on vraiment d'un art qui ne sert qu'à dire ce que l'artiste a voulu dire? Veut-on vraiment d'un art réduit à sa simple expression? Faut-il reléguer l'art à l'arrière-garde d'une armée de contestataires?
Voilà. En quelle année elle a écrit ça?
Il n'y a pas très longtemps, juste dans la foulée du printemps érable.
Oui, c'est ça. Ben, je pensais bien. Je pense qu'elle écrirait déjà différemment aujourd'hui.
Sauf que je pense que c'est clairement une démarche qui ne se définit pas comme politique.
Je veux dire, j'adhère complètement à ce qu'elle dit, mais ce que je veux dire, c'est quand elle dit « on n'entend que de ça, tout est là »,
c'était notre sentiment.
C'était 2012. Et déjà, c'est différent aujourd'hui, je trouve.
Quand j'ai écrit une pièce qui s'appelle « 2025, l'année du serpent », je me rappelle dans le pré-papier de cette pièce-là, juste pour vous dire, on parle, là, ça fait, c'est don engagé, le théâtre est don engagé, que cette pièce-là a eu lieu en 2001 ou en 2002, je ne me rappelle plus l'année exacte, mais on me disait, Philippe Ducrot veut parler de politique avec son théâtre. Je n'y crois pas, c'est un ovni, mais on va le laisser parler un peu. La pièce n'avait même pas encore eu lieu. Donc, il y a quelque chose dans le mouvement. C'était dans la presse. Il faut vraiment que je nomme des noms. Parce que je peux, hein. Mais je pense que ça sert à rien. Mais je crois... Après ça, en ce moment, le verbatim exact n'est pas tout à fait juste. Mais c'est ça qu'elle voulait dire. Et je me rappelle très bien qu'elle disait « Je ne crois pas au théâtre politique ». Et le spectacle était présenté de même dans son pré-papier. Donc, de dire en ce moment « Le théâtre est politique », ben peut-être aussi qu'il y a des mouvements dessus. Moi, je reviens un peu à ce que disait Étienne. En ce moment, je pense qu'il y a les gens sont préoccupés actuellement. Et donc, les artistes aussi sont préoccupés et essaient de parler de choses qui les préoccupent. Et des fois, l'aspect esthétique peut-être peut être relégué à une autre zone parce qu'il y a préoccupation, parce qu'il y a inquiétude. Voilà.
Puis je pense que la réaction de chaque personne ici par rapport à la question, puis même le texte d'Evelyne, montre que le plus gros de la réflexion à faire est sur notre façon de nommer les choses a priori. Cette façon-là de dire politique, pas politique. C'est comme si les distinctions faisaient qu'on s'enfargeait un peu après dans les concepts.
Je suis d'accord.
Puis engagement, c'est ça. Donc, je ferais la distinction peut-être, ben, j'en ai fait quelques-unes, là, mais j'en renommerai celles qui me repassent par la tête. La première, c'est la distinction entre, disons, l'objectif de faire de l'esthétique, au sens fort du mot, pas au sens faible, au sens fort, au sens grand, et la justice sociale. Ça, c'est des distinctions importantes à faire. Et après ça, se dire, est-ce que c'est dans quoi je suis quand je suis dans mon intention, dans quoi je suis quand je suis dans ma structure, puis dans quoi je suis perçu. Il y a comme plein de tous ces niveaux-là comme ça. Puis après ça, le mot politique ou engagé m'apparaît sans intérêt. Ou en fait, non, le mot politique est très intéressant, mais pour distinguer des choses, ça m'apparaît pas tellement pertinent.
Et je crois qu'au moment où on crée, où on prend la parole,
Nous, en tant que créateurs, on ne se questionne pas à savoir comment on doit définir exactement la chose qu'on est en train de, sur laquelle on travaille. Alors, on ne se dit pas, je fais en ce moment une pièce engagée, je fais un théâtre citoyen. C'est assez rare qu'on entende la
part. Oui, mais si vous voulez
faire besoin de l'identifier.
Si vous voulez faire une demande de subvention, on vous demande de le dire.
Voilà. Mais c'est ce pourquoi, on revient à la question de tout à l'heure, ce pourquoi il est très, très difficile d'y répondre adéquatement, parce que on ne peut pas mettre des termes aussi facilement, il me semble.
Oui. Ah, il y a une question dans la salle, oui. Il y a un micro baladeur, voilà, parce qu'on enregistre tout ça. Votre nom?
Seigneur. Ben, si je peux juste amener une nuance, moi je me suis rendu compte que l'artiste, il est politique des fois malgré lui, parce que ce que j'ai vu en tant qu'enfant, c'est des artistes menacés, tués, toujours les premiers à être visés parce qu'ils ont une prise de parole. C'est la première fois que moi, je me suis rendu compte en tant que juste personne, en tant que femme, que pourquoi on attaque des artistes? Qu'est-ce qu'ils ont de si brûlant qu'on les attaque? Puis qu'on veut les éliminer et qu'on veut les faire taire. Après, je me suis rendu compte, bon, en grandissant, c'est aussi les journalistes. Et donc, même encore maintenant, le pays d'où je viens, évidemment, ça ne correspond. Je viens d'Ukraine, OK? Donc, je suis russo-ukrainienne, donc si vous... Si on parle de politique, si on parle de la situation politique actuelle, je pense que tout le monde devrait être au courant de ce qui se passe en Russie, en Ukraine et en Europe en général. Et donc, être artiste là-bas n'a rien à voir avec être artiste ici. Là-bas, tu n'as même pas le temps de te poser la question « Est-ce que je suis politique? Est-ce que je devrais l'être ou pas? » Tu l'es tout court, puis on te tue juste parce que tu as osé peut-être dire quelque chose qui n'est pas tout à fait adéquat. Puis en plus, souvent... de ce que j'ai vu, ce qui m'a beaucoup fait tomber en amour avec l'art, c'est que souvent, tu as tout fait pour faire de l'art et ne pas essayer de ne pas être justement politique. Donc, essayer de faire même du théâtre de marionnettes, essayer de faire du théâtre très esthétique, mais de trouver une façon complètement subversive et complètement éclatante qui nous amène vers l'extraordinaire, vers quelque chose qui est au-delà du réel. Et pourtant, même à cause de cette prise de parole-là qui est peut-être dure à détecter, qui n'est pas du documentaire, bien, c'est là qu'on t'attaque. Donc, de là, voilà, c'est juste le fait que je sens ici au Québec une très grande peur du politique parce que beaucoup de gens aussi n'y s'y comprennent pas. N'y s'y retrouvent pas. Ils sont très désabusés. Également, ils se cherchent parce que le politique, en fait, c'est quelque chose... Ils ne ressentent pas la menace sur leur vie. Voilà.
C'est intéressant ce que tu soulignes parce que je pense que par rapport, par exemple, à comment on peut avoir envie d'assassiner des artistes, ça montre clairement que... comment dire? On est vraiment dans un régime très différent ici. On est dans un régime... qui n'a pas tellement d'inquiétude au niveau de la parole, pas tellement d'inquiétude au niveau de ce qui peut être dit. Parce que de toute façon, c'est toujours récupérable pour faire de l'argent. Ça, c'est très fort. C'est pour ça que ça marche si bien. C'est pour ça aussi que c'est très difficile à changer. Et donc, d'une certaine manière, ça aussi, c'est peut-être une petite dimension pas le fun à souligner, mais les artistes et le milieu artistique institutionnalisé, d'une certaine façon, malgré qu'il soit contraire à la productivité souvent, un lieu d'échange et de partage, un lieu en soi, là, un lieu qui échappe un petit peu à la notion de pur profit, ça n'empêche pas que c'est quelque chose qui est tout à fait toléré et même assez avantageuse pour un régime comme pour le régime néolibéral qu'on a. Pourquoi? Parce que ça permet à toutes sortes d'énergies qui pourraient être compliquées à gérer de passer là-dedans. De passer dans des logiques.
C'est une soupape.
C'est une soupape. C'est comme un plaster, si on veut. Et donc, tu as tous ces gens qui se disent, voilà, on a été engagé, on a fait telle affaire, on est tellement passionné. Puis en même temps, c'est frustrant. Moi, à tous les jours, ça me turlupine parce que je sais que d'une certaine manière, la façon dont je fais mon art, le milieu dans lequel je le fais, la façon dont il fonctionne, m'oblige malgré moi à participer. Même si d'une certaine manière, il y a plein de choses qui sont contraires à la logique de l'entreprise. Il y a quand même, en arrière de ça, c'est pas pour rien, des grandes banques, puis des grands financiers, puis des grandes multinationales qui financent ça, parce que ils n'ont pas peur. Ça n'a rien à voir avec les artistes en Ukraine. Ils n'ont pas peur. Au contraire, ils nous aiment bien. Vous lirez le facteur C de Simon Brault. Simon, je t'aime beaucoup. Vous lirez ça. Ça, c'est vraiment la culture au service du développement. Puis ça marche bien. Le capitalisme peut tout à fait avaler ça. Ça marche bien dans la main.
Mais je suis étudiante au HEC aussi. Tous ces trucs-là en gestion des arts. Donc, ça me tue à tous les jours. Mais tout ce que je veux préciser, c'est qu'ici, je me suis rendu compte qu'évidemment, la liberté d'expression, cette soi-disant liberté, donc il n'y a pas de régime qui te fait dire, ben voilà, tu es un artiste puis tu veux être contestataire ou tu ne veux pas l'être, mais on t'élimine. Donc, ici, la liberté d'expression fait en sorte qu'on nous élimine par la censure, de l'indifférence. C'est juste qu'on s'en fout de ce que tu as à dire. On te met dans un carré de sable, puis tu dis, ben, joue avec tes petits jouets dans le carré de sable, puis voilà. Et je me suis rendu compte, en étudiant au HEC aussi, que la bureaucratie, justement, les subventions, le système dont tu parles, la structure, ça fait en sorte que, voilà, on nous a bâillonnés, muselés, puis on est content. On est content, on y participe parce qu'on ne sait pas quoi faire autrement, puis bon, ça prend des actes de dissidence. Comme peut-être Dave Saint-Pierre l'a fait, donc en disant non, je ne vais pas produire ou jouer mon spectacle pour en tout cas, il en parle en long et en large de c'est quoi sa démarche par rapport à ça, mais voilà, mon point, c'est que c'est juste, on est pour des réussites personnelles, on se condamne à suivre notre cheminement individuel et on se prosterne. Voilà, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais à date... Je sais qu'il y a beaucoup de révoltes. Je suis très d'accord avec ce que tu as dit, dans le sens que je pense que tous les artistes, et c'est ce qui m'a toujours impressionné au début, c'est qu'il y a une volonté de changer les choses.
La chose certaine, c'est que la prise de parole dans un pays comme la Russie de Poutine actuellement, qui est un pays opprimé, et c'est très grave ce qui se passe à mon sens, la prise de parole, c'est un grand risque, comme vous le dites. On risque notre vie à s'exprimer, ce qui n'est pas le cas quand même en Occident, ou en tout cas en Amérique, c'est assurément pas le cas. De la même façon, il y a un risque, mais qui n'est pas sur le même plan.
Woody Allen, il dit, en dictature, c'est ferme ta gueule, en démocratie, c'est cause toujours.
Voilà, c'est très juste.
Oui, c'est vrai, mais on sera toujours dans un système quel qu'il soit, c'est-à-dire... je comprends ce que vous dites et je trouve que c'est juste certainement que notre système permet la liberté d'expression parce qu'il sait comment récupérer. Et on peut dire même que des artistes qui sont les plus provocants et qui vont le plus ruer dans les brancards et briser les codes, et on en voit au FTA de ces artistes-là, on en voit dans les grands festivals internationaux, et ils ne sont pas du tout inquiétés et au contraire, ils deviennent des stars un peu, ils ont leur cours. Et donc tout ça peut exister dans notre système. Et
Non, mais dans un système, où une société où la liberté d'expression est totalement possible, même si elle est parfois restreinte, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette liberté et qu'est-ce qu'on dit. Alors que dans ces régimes, quelqu'un qui prend la parole, qui est divergente de la pensée opprimante, comme en Russie, c'est sûr que juste de vouloir prendre la parole, tu risques ta vie. Alors, les enjeux sont différents.
Mais c'est sûr. Alors, le directeur du FTA veut intervenir.
Je ne suis pas encore directeur du FTA. Dans 10 jours.
Le prochain.
En fait... Individuellement, je peux vraiment voir des choses qui sont très, très politiques dans les pièces, dans les propos que vous avez tenus, et je pense qu'il y a vraiment des choses où vous contestez des valeurs établies, vous dénoncez des choses, donc il y a une prise de parole politique. Là où je suis un peu troublé, c'est que je crois que, je vais parler pour Montréal, le système des théâtres montréalais est devenu apolitique. Et donc, le relais de la parole politique n'est pas du tout mis de l'avant par les directions artistiques ou par les campagnes de publicité, les campagnes d'abonnement, où... ces théâtres-là, une fois par année, au moins, font une soirée bénéfice, où ils côtoient des gens d'affaires qui font partie du conseil d'administration. Et là, soudainement, il y a comme une espèce de game de séduction. On n'est pas trop hard, tout le monde va aimer notre spectacle. Et là, ça atténue la portée, souvent politique, de vos propres pièces ou de vos propres œuvres. Et là, je pense qu'il y a une neutralisation qui est au-delà de votre geste premier. Je vais m'inclure là-dedans aussi, là, de mon geste premier. Et c'est là que ça me trouble beaucoup de voir comment est-ce que le grand relais qui sont les théâtres, c'est les haut-parleurs de nos paroles à nous, là, la politique est très, très difficile à mettre de l'avant dans un Montréal quand même où il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités, qu'il y a beaucoup de choses qui ont comme qui sont à dénoncer ou à crier. Donc, je pense que le néolibéralisme de la diffusion empêche...
Et impose quelque chose et empêche le théâtre politique. Absolument.
Mais moi, je ne dirais pas que c'est apolitique, par contre, Martin. Je dirais, au contraire, c'est très politique, dans le sens où, où c'est un coup de main forte à ce qu'on essaie de bloquer ou qu'on essaie de penser autrement. Tu sais. C'est très, très...
C'est de vouloir filtrer la parole.
Parce que, tu sais,
mais si on dit que c'est un coup de main à ça, je ne crois pas que ça soit volontaire, pourtant. C'est là que je trouve que les modes, le comment est important par rapport à la cause politique.
Volontaire de la part de qui?
Je ne pense pas que les théâtres disent hey, il ne faut pas donner un coup de main à l'ordre établi, donc il ne faut pas agir en tant que relais. Je pense que c'est juste, encore une fois, c'est de l'intériorisation de certains conditionnements qui, peu à peu, se développent et qui partent. Tu parles du relais qui est des théâtres, mais après ça, on pourrait parler du relais des médias, on pourrait continuer ce relais-là.
Le plus important, c'est le relais des théâtres.
Je comprends. Mais le mode de production, ce que je parlais au début, c'est que le mode de production commence même au financement. Après ça, tout ça, qu'on se retrouve à faire des campagnes de financement.
Est-ce qu'il est capable de faire une pièce politique malgré le roi?
Complètement.
Et visuellement,
qui est assez fort. Tu n'as pas de micro, Martin. C'est la directrice du FTA qui a le micro maintenant. Marie-Hélène.
Le micro est passé de la directrice au futur directeur.
Mais... Bon, moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes à Montréal qui risquent leur peau ou qui risquent la prison à cause de ce qu'ils disent ou à cause de la façon dont ils le disent. On a l'impression parfois qu'il peut y avoir des propos relativement osés, mais qui sont forcément et immédiatement récupérés par la forme qu'on leur donne, par le contexte et par l'organisation qui est faite autour, pour les vendre et pour les amener jusqu'au public. Des gestes vraiment subversifs, je n'en vois pas dans notre milieu. Il n'y a pas de risque qui se prend réellement et il n'y a pas de parole non plus qui mette en danger l'artiste qui les profère.
Puis c'est là où ça rejoint Xenia, qui parlait plus de radicalité. En fait.
Tout le monde s'entend pour que notre théâtre soit social, traite des réalités sociales. On n'a absolument pas chez nous un théâtre historique qui traite des grandes questions de notre époque, vraiment. On est très dans l'intimité, on est très dans le voisinage, on est très dans les propos rassembleurs, mais... il n'y a personne qui va aller en prison cette année. Là. Alors, moi, j'aimerais ça.
Que quelqu'un aille en prison cette année.
J'aimerais ça, voir un peu de subversion réelle. Mais notre niveau de vie, celui qu'on a ou celui auquel on aspire, empêche tout le monde de bouger. Alors, ce n'est pas les formulaires de subvention, ils sont chiants. Mais il n'y a pas aucun théâtre subventionné nulle part dans le monde qui a des formulaires de subvention attrayants. Quand on vit de subventions, on sait jusqu'où ne pas aller trop loin.
Mais moi, j'ai une question, parce que là, tu dis, tu aimerais voir plus de subventions ici. Tu en vois certainement plus à l'étranger et tu en vois en Europe.
En vois-tu plus à l'étranger?
En vois-tu?
Mais pas tant
une question,
que ça.
En vois-tu?
Pas tant que ça.
Et parce qu'en Europe, ils sont aussi gradueux quand même. Ils sont dans le même confort que nous, on peut dire, certainement. Ils sont peut-être pas dans le même schéma intellectuel, mais ils sont dans le même confort matériel que nous, les artistes.
Bien sûr.
Bon,
alors, ils ne vont pas très loin non plus.
Ben, jusqu'où tu veux qu'on aille? Dis-nous.
En prison.
Alors, jusqu'où vous pensez que vous allez ou jusqu'où vous pensez que vous prétendez aller ou que vous aimeriez aller?
Ben, moi, j'aimerais
on parle,
ça faire...
On parle d'anglais, oui.
Il y a deux affaires. La première, c'est sur cette notion de liberté d'expression. Je vais rejoindre ce que tu dis, Marie-Hélène. C'est, je pense pas qu'il y a la liberté d'expression. C'est faux. Tant qu'on est... Je vais terminer mon idée. Tant qu'on est dans le théâtre, puis qu'on gueule, on fait caca sur scène, c'est correct. On peut dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, mais en réalité, on est dans une structure qui nous, où est-ce qu'on est déjà cadré, quoi.
On est
déjà
cadré,
placé.
Ouais.
Pendant notre carré de sable. Par rapport à ce que disait Xenia, oui, il y aurait tout à fait possible, mais c'est aussi ce que tu disais, Marie-Hélène, il y aurait tout à fait possibilité d'être beaucoup plus radical, mais là, à ce moment-là, ça ne sera pas impuni. On l'a vu avec 2012. Moi, j'en ai fait de la prison en 2012 parce qu'on est sorti, puis parce que là, on a dit des choses qu'ils ne voulaient pas qu'on dise. Mais j'ai été arrêté, j'ai été en prison, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit la réaction par rapport à la... Je veux juste mentionner cette idée de liberté d'expression. On a l'impression qu'on peut tout dire. Ben oui, tant qu'on est dans un système qui est inoffensif ou un système qui nous arrange parce que ben, le facteur C. Mais à partir du moment où tu vas sortir réellement, oui, il va y avoir des choses. Ça ne veut pas dire que tu te fais tirer à vue, là. Il y a quand même des limites, mais oui, il y aurait des gestes possibles. Puis à ce moment-là, je retrouve aussi ce que disait Carole, qu'il y a aussi tout un confort qui est difficile à contredire, c'est difficile de sortir. Tu peux dire plein d'affaires tant que tu restes dedans, effectivement, il y a une sorte de sécurité. Puis en sortir, on pourrait le faire. Je pense que le Théâtre des Cuisines le faisait. C'était pas... Ça n'a pas besoin d'être contre la légalité pour que
oui,
ça devienne pertinent.
Oui, on risquait pas la prison. Mais
non, mais c'est pas parce que tu vas faire de la prison que là, tu as vraiment fait qu'est-ce qu'il faut. Ça veut rien dire, ça. C'est pas ça l'idée.
Mais pour revenir à la prison.
C'est ça, c'est pas un objectif, tu sais. C'est pas...
Un des projets artistiques théâtraux les plus stimulants, pas les plus stimulants, mais qui m'a vraiment fortement stimulé et étonné, c'était le projet de Annabelle Soutard, Sexy Béton, qui vraiment, d'une façon hyper frontale, entrait dans les absurdités du système de justice québécois où le viaduc est tombé et fait des victimes. Et j'étais déçu qu'aucun... C'est un théâtre, en plus, qui était hyper populaire. C'est-à-dire que c'était une histoire limpide. Tu t'identifiais aux gens. Tu voyais les rouages absurdes et c'était passionnant à voir. J'étais très déçu qu'aucun grand théâtre montréalais reprenne ce spectacle-là qui, à mon avis, aurait vraiment plu aux gens et aurait vraiment eu un impact réel et aurait absolument pu faire changer les choses. Bon, pourquoi que ça n'a pas été repris, je n'en ai aucune idée, mais il y a eu quand même un travail réel que moi, je n'ai pas vu que les années 70 vraiment, mais qui m'a vraiment ramené à cette espèce d'idéal-là de rentrer de plein pied dans une réalité sociale, d'en faire un geste théâtral qui avait aussi une poésie.
Alors, oui, si, j'allais dire si.
Ben, oui,
a été repris au Centaure, a été repris à la Licorne, a été... Si,
oui, mais... parce que Sexy Béton était tellement québécois, dans une réalité québécoise avec un grand cul, que j'aurais vraiment souhaité que dans un grand théâtre, on entende ça sur une grande échelle. Alors, tout ça pour dire que la responsabilité qu'on a aussi de donner écho à des choses qui sont des fois à plus petite échelle, et après ça, avoir un relais, donc, comme milieu, pour qu'on soit beaucoup plus vigilant. Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent qui sont intolérables. Et il y a des artistes qui le font. Donc, c'est le relais que moi, je mets en question parce que je vois des tentatives souvent réussies de la part d'artistes, mais notre responsabilité, je pense, en tant que quand on a un lieu ou un événement, c'est de donner un relais aux choses pour que les voix puissent vraiment s'élever et s'adresser au plus de gens possible. Donc, je pense qu'il faut qu'on se responsabilise plus pour vraiment donner fortement écho. Parce que oui, Seeds au Centaure, mais un Seeds, puis à la Licorne, très bien, mais les plateaux de 600, de 700 places, il ne faut pas minimiser l'importance de ces plateaux-là dans une cité, dans une ville.
Bien.
Moi, je voudrais dire quelque chose sur la subversion.
Parole. Oui.
depuis tout à l'heure, je me demande, est-ce que c'est ça que je veux, être subversive? Et en fait, je sais qu'il y a une... Enfin, je me pose la question, est-ce que quand j'écris, je ne suis pas parmi les plus subversifs des auteurs, certainement pas, mais je ne crois pas qu'il n'y ait que cette voix-là à faire entendre. Moi, on écrit son rapport au monde, qu'est-ce que tu veux? On est ce qu'on est, nous, on est nés ici, on vit dans cette société-là. Et moi, je me dis, ce que j'ai à faire, c'est de témoigner de mon expérience du monde. Moi, je suis une femme, alors j'ai fait pendant les années 70 du théâtre engagé avec le Théâtre des Cuisines. Ça avait plein de sens à ce moment-là. Ça n'aurait aucun sens de faire ça aujourd'hui. Le monde change sans arrêt. Aujourd'hui, ce qui a du sens pour moi, c'est de me dire, je mets sur la place publique ma vision du monde, qui est une vision de femme, et ça contribue. Mais vraiment, moi, j'ai des objectifs extrêmement modestes. Hein. Je n'écris pas pour changer le monde. Je n'écris pas pour brasser le public. Je n'écris pas pour le provoquer. J'écris pour, je ne sais pas, pour partager, pour témoigner, pour... Mais je me dis, le public, il réagira comme il voudra, mais c'est pas, moi, je me dis pas, il faut que je lui donne un électrochoc parce que cette société n'a pas de bon sens. Moi, je me sens faire partie de cette société profondément. Et qu'est-ce que tu veux? On est dans ce système. On peut pas s'extraire du système et faire comme si on n'était pas dans un système de commerce, d'échange, de capitalisme, de tout ce que tu voudras. Et on peut même pas imaginer qu'est-ce que ce serait un système qui ne serait pas ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que cette espèce d'idée qu'un artiste doit être à tout prix subversif, je conteste ça. Je trouve. Ce n'est pas mon objectif principal.
Qu'est-ce qui est subversif? De nos jours, qu'est-ce qui est subversif? Là, je me rappelle d'avoir vu l'orgie de la tolérance ici de Diane Fabre, où il y a un comédien sur scène qui s'encule avec un fusil, puis j'étais comme. Mais oui, mais encore, moi, à mon époque, ça ne me fait plus rien, moi, il me semble. D'après moi, il ne reste que le propos qui est réellement subversif.
Il reste le monde. Voilà, c'est ça.
Mais je suis complètement d'accord avec vous, puis ça me fait revenir à cette idée que je pense que la tâche des artistes peut être celle de ce que moi j'appelle la transcendance, qui t'a donné toute une déclinaison de mots, toucher, partager, proposer des expériences, proposer des aventures, essayer et qu'il y a une sorte de problématique quand on imagine qu'il faut en plus que l'artiste soit pour la justice sociale. Mm-hmm. Quels moyens il a pour le faire? Puis c'est là où j'embarque même avec ce que dit Martin, comment il y a les théâtres qui peuvent faire cet effort-là, mais après les théâtres, il y a les subventionnants, puis après les subventionnants, il y a comment on traite les étudiants, les enfants, comment on leur donne l'idée que la culture, c'est cet objet, etc. Et là, c'est qu'on demande aux artistes, et les artistes se responsabilisent, de tâches dont ils n'ont pas les moyens, ni les outils, ni même le savoir-faire, grosso modo. On est des gens qui travaillons au quotidien sur des papiers, à essayer de faire ce qu'on peut. Et donc, il y a une sorte de confusion là qui est douloureuse, puis qui fait qu'on se responsabilise d'un truc qu'on ne peut pas faire. C'est comme essayer de visser une vis avec un marteau. Tu sais. Maintenant, c'est pas ça. Tu sais. C'est pas ça. Puis pour moi, en fait, ma conclusion, c'est qu'il y a un problème de société. Puis que ce n'est pas les artistes qui peuvent le régler tout seuls. Il y a un problème de société. Les artistes peuvent peut-être en parler, mais même là, ils vont en parler à des gens qui le savent.
Oui, parce que la prise de risque dont parlait Martin Fauché et Mme Falcon est assez juste. Comment se fait-il qu'il y a très peu de risques qui sont pris de par la direction des théâtres institutionnels? C'est parce que ces institutions sont maintenant devenues en grande partie subventionnées à de très peu pourcentage et des lieux où c'est le privé qui est mis de l'avant. Les sous viennent du privé et on veut que ça marche et que ça roule. Alors, c'est sûr que la prise de risque est de plus en plus limitée. Il faut que le spectacle soit éblouissant et fasse rentrer des sous. Et même notre théâtre dit national, le théâtre du Nouveau Monde, n'est pas un théâtre national qui devrait prendre des risques, mais qui n'a pas les moyens de le faire, à mon sens, puisqu'il est subventionné à 30 %. Alors, le CA dit qu'il faut que ça marche, il faut que ça roule. Alors, les risques, on en prend très peu sur le plan dramaturgique ou autre. Et c'est sûr que là, des espaces qui ont quand même une reconnaissance, qui ont un public, si on leur sert que ce qu'on croit qu'ils doivent recevoir, mais c'est qu'il n'y en a pas de risque, il n'y a pas de choses étonnantes ou un peu plus subversives ou même un peu plus originales qui y sont créées, souvent malheureusement.
Marie-Hélène.
Mais, bon, moi je pense que le public est prêt à prendre beaucoup plus de risques que ce
Absolument.
Qu'on a l'habitude de lui servir.
Absolument.
Et je pense que nos théâtres pourraient tout simplement le décider. Il se fait énormément d'autocensure et c'est un frein immense. Et pas seulement par rapport à nos théâtres, mais moi j'entends régulièrement aussi chez des diffuseurs en province, par exemple, qui vont dire « Ah ben moi, tel spectacle, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais mon public n'est pas prêt. »
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça veut dire... Non, c'est pas vrai. Ça veut dire quelque chose
ben oui.
de grave. Ça veut dire que la personne qui te dit ça n'est pas prête à le défendre et à l'imposer. Les risques, il faut avoir envie d'y prendre. On peut se réfugier dans les conditions, dans les subventions, mais c'est pas vrai, tout ça. C'est de la foutaise, tout ça. Les risques, on veut les prendre ou on ne veut pas les prendre. Je pense que c'est tout. Et encore une fois, dans le festival, récemment, il y a eu des spectacles plus subversifs que d'autres. Ostermayer, que tout le monde a porté au nu, c'est pas un spectacle subversif, c'est un spectacle intelligent, bien fait, qui tombe pile par rapport à des questions d'époque, mais c'est un théâtre éminemment bourgeois, qui est fait pour les bourgeois de Berlin, et qui, bon, tu sais, on rêve d'en avoir un théâtre bourgeois comme ça, intelligent, bien fait, ça serait déjà quelque chose, mais bon, ça viendra peut-être un jour.
On s'en va pas dans ce sens-là.
Mais les formes, vraiment, il n'y a pas que le propos qui est subversif. La forme est importante aussi. Conte d'amour, à mon avis, c'est un spectacle subversif. Parce qu'il dit, il ne parle pas de politique, là, deux secondes, parce qu'il dit et par la façon dont il est fait et par la manière qu'il a de venir nous interpeller, nous déranger, nous bouleverser, nous inquiéter. Je pense que c'est un spectacle qui porte. Mais la forme est extrêmement importante aussi. S'il n'y a pas d'avancée au plan de la forme, s'il n'y a pas de remise en question d'une forme conventionnelle, il n'y a pas beaucoup d'engagement. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'engagement ou il n'y a pas beaucoup de politique non plus là-dedans. Hate Radio de cette année, il est subversif. Pourquoi? Par le montage d'extraits de toutes les émissions qui se sont échelonnées sur plusieurs mois, qui sont ramassées dans une heure, par cette espèce de cage de verre où les gens sont enfermés. C'est un spectacle, et avec les grands panneaux, avec ce qui sort vers le public, c'est des témoignages d'une force, d'une tristesse, d'une désolation inouïe, mais c'est un spectacle qui nous rejoint et qui nous interroge profondément et qui nous met mal à l'aise pendant longtemps. Cela dit, je ne dis pas que tout le théâtre doit être subversif. Je suis entièrement d'accord avec Carole quand elle dit « Moi, je mets sur la scène ce que je suis, mes interrogations. J'ai envie de parler à un public. Je n'ai pas nécessairement envie de le choquer ou de le bouleverser. » Ce n'est pas nécessaire de faire ça à chaque fois non plus. Mais si on veut, si on parle, de poser des gestes qui sont susceptibles de faire d'ébranler les structures, de créer des ruptures et d'amener le public ailleurs, ben il faut prendre des risques et il faut prendre ses responsabilités aussi. Il n'y a pas d'autre façon d'y arriver.
Je crois qu'il faut en conclure, Marie-Hélène, parce qu'il faut conclure aussi, que au FTA, tu as un conseil d'administration moins conservateur que dans la plupart de nos théâtres. Alors, est-ce que c'est un conseil d'administration que tu as mis à ta main ou comment ça s'est passé pour que ce conseil d'administration t'autorise une telle subversion dans tes programmations?
Mais le conseil d'administration...
Parle dans le micro.
Le conseil d'administration, sa principale fonction, sa fonction première, c'est de soutenir la raison d'être d'une institution. C'est de soutenir la démarche artistique de l'institution. Sa deuxième raison d'être, c'est de ramasser de l'argent pour que ça se puisse. Et il n'y en a pas de troisième responsabilité dans un conseil d'administration. On veut leur faire jouer tous les rôles. Dans nos formulaires de subvention, il n'y a pas juste la recherche du public. Moi, je trouve que c'est très honorable que l'État demande aux structures, aux compagnies, d'élargir le public et d'aller vers des publics qui sont moins nantis ou alors qui ont moins d'accès d'une façon générale à la culture. Il y a une autre affaire qui prend de la place dans les formulaires de demande de subvention. C'est la gouvernance. Mm. Bon, et la gestion, etc. Alors ça prend du temps, ça prend de la place et ça enlève, tout compte fait, de la force aux vraies raisons qu'on peut avoir de faire du théâtre ou de la danse ou de la peinture ou des arts, quels qu'ils soient.
Alors, j'invite mes invités à un dernier tour de table pour conclure, parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on discute. Est-ce que vous avez quelque chose, un commentaire à faire pour nous laisser sur vos dernières impressions?
Je rebondirais peut-être sur ce que dit Marie-Hélène parce que c'est là, puis j'ai fait quelques
je sais pas, j'ai parlé pas mal déjà. Je comprends, je suis d'accord avec ce que tu dis, Marie-Hélène. Je pense par contre que tu parles beaucoup de la forme du théâtre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans cette institution. Puis là, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de trucs qu'on peut faire. Ceci dit, c'était peut-être plus au début, on a parlé de ça, tu n'étais peut-être pas arrivé encore. Je continue de penser qu'on est dans une structure qui fait que ben, ceux qui vont avoir été troublés par la pièce dans le sous-sol, là, je ne me souviens plus comment c'était, Conte d'amour, ben, c'est à peu près les mêmes qui sont allés voir aussi Ostermayer. Puis cette structure-là fait que, d'une certaine manière, comment? Ah oui, ils ont peut-être fait la différence, sauf que c'est pas ça tellement que je veux mentionner, comme le fait que ce public-là, c'est un public de gens qui s'intéressent fort aux enjeux esthétiques, puis en dialoguant avec eux, il y a plein de grandes choses qui peuvent arriver, mais on n'est pas sur les enjeux de justice sociale, puis c'est là où on mélange les trucs, je pense, quand on parle d'engagement, puis de politique, puis de théâtre. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui
veulent conclure? J'ajouterais peut-être encore sur ces trucs de subversion. Ça m'a vraiment piqué, on dirait. Mais je trouve, tu sais, tu demandes comment tu as fait, Marie-Hélène, pour convaincre ton conseil d'administration. C'est certain que la fonction même du FTA, c'est de présenter du théâtre de pointe. Enfin, c'est ce que tu as voulu en faire. Puis, mais je suis sûre que dans le monde des festivals, des grands festivals dont le FTA fait partie, il y a aussi moyen d'être subversif parce qu'il y a des règles là aussi. Et qu'est-ce que ce serait le moyen d'être, qu'est-ce que c'est pour vous la subversion ultime, non pas juste de présenter du théâtre subversif, mais dans le monde dans lequel vous évoluez? C'est une question, je la lance comme ça. Je la lance au prochain. Tiens. Tu répondras, Martin.
Merci. Moi, j'ajouterais une seule chose, c'est que je suis très heureux d'entendre, surtout venant de la directrice d'un festival comme le FTA, que les risques qui ne sont pas pris uniquement pour des questions économiques. Il me semble que c'est un point important, mais évidemment, le choix de chacun des directeurs à Montréal ou en région, où, dès qu'on dirige une institution, il faut oser peut-être plus. Ça me réjouit d'entendre que on croit encore que des gens devraient oser plus, parce que je le pense également et je le souhaite. Que ce geste soit politique ou citoyen, on n'a pas réussi à établir véritablement ou à définir plus clairement, mais les prises de parole fortes, en dehors de festivals comme celui-ci, on devrait en retrouver davantage en saison régulière dans les théâtres institutionnels. On le voit dans des petites compagnies qui prennent beaucoup de risques, dans des plus petits théâtres, devant de plus petits publics, mais il me semble qu'on devrait en voir davantage en dehors du FTA, des risques véritables, et c'est ce que je souhaite. Et que Merci. Ces risques soient politiques ou citoyens, ou on les définira en temps et lieu, c'est pas ça qui est important. C'est des prises de parole, à mon sens, qui sont fortes.
Merci. Alors, le dernier mot est à Philippe Ducrot.
Moi, j'aurais tendance à dire que les grandes choses commencent petitement. Et donc, toute cette démarche-là de vouloir que le risque s'impose, ça va se faire si les artistes, si nous, en tant qu'artistes, d'après moi, on réussit à essayer de se désintoxiquer de l'autocensure qu'on s'impose nous-mêmes pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre projet. Et tout à coup, le risque apparaîtra qu'on va y aller directement jusqu'au bout de notre projet, d'après moi. C'est ce que je nous souhaite.
Merci. Merci à tous, merci à mes invités, merci au FTA de nous avoir accueillis.
Merci.
Et je vous invite maintenant au lancement de Jeu 151, qui est un numéro assez subversif, je pense, sur les corps atypiques.
Radio Spirale.